tu parlais de ton bilan tout à l'heure, parce que 10 ans de premier album, 13 ans de carrière. L'année passée, ça a fait 20 ans que tu as été repêché par le Canadien.
Ah, t'es le premier qui me dit ça. C'est vrai, je viens de... Ben, mon Dieu, Seigneur, t'as donc bien raison, toi. Puis on n'a même pas célébré ça. Je suis même pas allé prendre une bière pour fêter ça, Colin. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai complètement oublié ça, moi. Fait que 2016, c'était à l'été. Ben oui, c'était en 96. Donc en 2016, à l'été, ça faisait 20 ans. My God! Ça fait 20 ans. Et ça me surprend plus que n'importe quoi que tu peux me dire. 20 ans que j'ai été repêché par le Canadien de Montréal.
Qui est une étape marquante, même si tu n'as pas continué dans ça. C'est quand même le souhait du joueur de hockey d'être un jour repêché dans la Ligue nationale. Peu importe le rang, on a juste envie d'entendre son nom et de savoir qu'on est là.
Écoute, être repêché par le Canadien, mais je voudrais faire une petite note par rapport à tout ça. Ça fait combien de temps que le Canadien n'a pas gagné la Coupe Stanley?
Ben, en tout cas, depuis qu'ils t'ont repêché, ils n'ont pas gagné. Bon,
ben, c'est ça. Ils ne m'ont pas pris non plus. Tu sais. Je veux dire, moi, j'ai fait 2 camps d'entraînement avec le Canadien. J'ai été invité, j'ai essayé de faire l'équipe, ils ne m'ont pas pris. Bon, ça, depuis ce temps-là, ils n'ont jamais gagné la Coupe
Stanley. Toi, tu as des numéros 1.
Est-ce que c'est une coïncidence? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais écoute. Non, je fais des blagues, mais écoute, ça a été une grande fierté. J'avais été un bon joueur de hockey dans ma vie. La vie m'avait donné un talent dans le hockey. Tu sais, aujourd'hui, je ne m'enorgueillis pas de ça. Tu sais, hey, mon Dieu, j'étais un bon joueur de hockey. On s'en fout jusqu'à un certain point. C'est plus ma vie. Sauf que oui, j'étais un très, très bon joueur de hockey. J'avais le physique. À 15 ans, je mesurais 6 pieds 1. Je pesais 180 livres. J'étais le tout premier choix de la Ligue junior majeure du Québec. À l'époque, c'était la première fois qu'il y avait une équipe de la Ligue junior majeure du Québec en dehors de la province, les Moussettes d'Halifax. Donc, il y avait le premier choix. J'avais fini deuxième meilleur compteur de la Ligue Midget 3 derrière Daniel Brière, qui avait brûlé la Ligue, mais qui était un gars de 5 pieds 7.
Qui se faisait dire par tout le monde, tu ne réussiras jamais, tu es trop petit.
Tout le monde, il disait, t'es ben trop... Là, il est bon, Midget 3, mais Junior, il va se faire tuer. Il est arrivé l'année d'après dans la Ligue, il a tout brûlé. Tout le monde, il disait, il ne jouera jamais dans la nationale, il est trop petit. Il est arrivé dans la nationale, il a gagné 8 millions par année. Bon, peut-être que je fais un petit peu moins d'argent que Daniel Brière aujourd'hui. Mais l'argent.
Mais il ne fait pas 10 Daniel Brière maintenant.
Ben, c'est ça. Puis, y a-tu eu un numéro 1 à radio,
non,
lui, Daniel Brière?
Non.
Non. Bon, fait que c'est ça. J'en veux pas de ces 8 millions. Puis, qu'est-ce que je ferais avec 8 millions? On ferait quoi avec ça? Je changerais, je serais pas heureux, j'aurais trop d'argent. Peut-être que je deviendrais quelqu'un différent. Non, mais écoute,
t'arrête de la facilité à produire tes disques, en tout cas.
Ouais, puis je pourrais me payer des panneaux puis de la publicité, ça serait génial. Mais écoute, ça a été une belle étape dans ma vie, le hockey. Puis tu sais, d'arriver à Saint-Louis, moi j'avais été classé pour sortir à peu près en deuxième ronde. Fait que le repêchage de la Ligue nationale, c'est très long. Juste la première ronde, ça prend quelque chose comme 2 heures, 2 heures et demie.
Fait que quand la première ronde, c'est le soir, puis les autres rondes, c'est le lendemain, non? C'est pas ça maintenant?
Je suis tellement plus le hockey que...
Je pense que c'est sur 2 jours maintenant.
Ben ça, c'est une maudite bonne idée. Parce que moi, je me souviens qu'on se levait, on allait déjeuner à 8 heures, puis le repêchage commençait comme vers 9 heures. Puis juste la première ronde, là, les 30 premières équipes, ça prenait 3 heures. Puis parce que c'est long, les gars échangent, il y a des échanges, il y a des discussions.
Le temps que les gars se rendent en avant.
C'est ça. Fait que moi, le temps que je sois repêché, puis je pensais sortir vers la deuxième ronde, j'ai été très surpris parce que t'es rendu à milieu quatrième ronde, puis j'avais pas sorti encore. Puis là, dans ta tête de jeune homme de 18 ans, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi personne me repêche? Je vais-tu être repêché? Il y a 9 rondes, mais tu te dis, dans ce temps-là, je pense qu'il y en avait peut-être même plus. Mais tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Tout te passe par la tête. Puis je pense qu'il était rendu 3h, 3h30 de l'après-midi quand j'étais repêché. J'avais déjeuné à 8h le matin. À partir de la deuxième ronde, je n'ai plus bouger de mon siège, j'allais me chercher un hot dog d'un coup qui m'appelle, tu sais. Et là, j'arrive la quatrième ronde, c'était Régent Houle qui était directeur gérant, Mario Tremblay qui était coach. Là, les Canadiens s'en vont en avant. Puis là, j'ai fait une petite prière, je ne suis pas tant religieux que ça, mais j'ai dit, mon Dieu, j'ai dit, là, j'ai attendu tant que ça, j'ai dit... T'sais, j'avais eu une année difficile, j'avais eu des blessures, ça m'avait ralenti, puis tout ça, j'ai dit, s'il vous plaît, là, ça semble que ça changerait tout, que ce serait le Canadien de toutes les équipes qui pourraient me repêcher. T'sais, ça m'aurait fait plaisir d'être repêché par les Jets de Winnipeg, mais pas tant. T'sais, le Canadien de Montréal, ça te donnait quelque chose. Les Nordiques venaient de partir, ça faisait une année, je pense, en 95. Et là, ils nomment mon nom. Le Canadien de Montréal est heureux de repêcher Étienne Drapeau. Hey, mon Dieu Seigneur, le feeling de ça, là, d'aller en avant. Là, tu mets ton chandail du Canadien, ta casquette. Et les premiers, j'ai joué des matchs hors concours pour le Canadien quand j'ai été invité au camp. Ça a été un des beaux souvenirs de ma vie. Tu sais. D'embarquer sur la patinoire. Puis j'avais fait un match hors concours contre les Rangers de New York. J'avais d'ailleurs scoré un but. Je peux dire au moins que j'ai scoré un but dans la Ligue nationale contre les Rangers de New York. Et l'autre côté, c'est les Rangers de New York. Tu sais. Fait que là, tu es dans la période de réchauffement, puis tu patines. Puis là, tu regardes l'autre côté, puis c'est les Rangers. Puis là, tu te regardes, tu as le chandail du Canadien. Tu sais, là, tu as tout le casque, les gants. Quand tu arrives dans le vestiaire, tu as ton chandail du Canadien avec ton nom. C'est presque irréel. Il y a quelque chose de tellement gros là-dedans. Mais aujourd'hui, c'est une belle fierté de dire que je me suis rendu jusque-là dans le hockey. Mais c'est anecdotique dans le sens que je suis fier de ça, mais bon, j'en parle avec un sourire. C'est pas quelque chose qui me tient à cœur là, énormément. Là.
Mais ce qui est beau dans tout ça, c'est de prouver qu'il y a une vie après le hockey. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui fondent leur vie en se disant « Moi, je vais me rendre là, je vais jouer dans la Ligue nationale. » Il y en a beaucoup qui s'y rendent pas et qui trouvent ça archi difficile. Le « Qu'est-ce que je fais maintenant de ma vie? » C'était ma seule option.
Puis il y en a beaucoup trop, malheureusement. Moi, j'espère que ça a changé avec le temps, mais à l'époque, les joueurs d'hockey n'allaient pas à l'école. Moi, je me rappelle que dans le junior, on était comme 5 à aller à l'école. T'sais. Puis les 5 à aller à l'école, on prenait 2 cours de sciences humaines, pas de maths au cégep. T'sais. Tandis que, tu sais, quand tu regardes aux États-Unis, ils sont tous dans des collèges de hockey. Ils sont obligés d'aller à l'école. Fait que j'espère qu'au Québec, ça a changé un petit peu. Là, on est 3 anciens joueurs d'hockey qui sont en train de montrer que c'est pas si pire une carrière. Il y a eu Rock Voisine qui était le premier.
Oui.
Puis là, il y a moi puis Jonathan Roy qui font carrière et qui montrent que. Mais j'ai jamais été un joueur d'hockey en dedans de moi. J'ai été un joueur d'hockey parce que j'avais un talent, parce que j'avais le physique, puis parce qu'à 15 ans, l'agent, c'était Pierre Lacroix, avec son équipe, lui qui est devenu directeur gérant de l'Avalanche, qui sont venus me voir, puis qui ont dit, toi, tu vas jouer dans la Ligue nationale, puis on va te prendre à 15 ans. Ces gens-là qui sont les agents de Patrick Roy, de Vincent Danfous, de Pierre Turgeon, de tous les grands joueurs de la Ligue nationale, de Vincent Lecavalier par la suite et compagnie, viennent te voir, t'as 15 ans, puis ils arrivent avec leur BMW, puis leur saut, puis ils viennent s'asseoir, sont 3 avec toi au restaurant, puis là, on veut te signer, on va devenir tes agents, puis nous, on pense que tu es un futur joueur de la Ligue nationale. À 15 ans, moi, ça faisait 10 ans que je jouais du piano de l'âge de 5 ans à 15 ans, j'étudiais la musique, j'écrivais de la poésie. J'avais commencé un petit peu comme comédien dans des affaires jeunesse quand j'étais jeune, j'aimais bien ça, j'étais un artiste. Mais à 15 ans, quand tu te fais dire que tu as peut-être une chance de jouer à la Ligue nationale, de faire des millions, tu dis pas non, moi je veux ma carte de l'UDA, puis je vais devenir comédien ou je vais devenir chanteur. Non, tu te lances là-dedans, mais je continue à écrire. À 18-19 ans, j'ai commencé à jouer de la guitare, à écrire mes chansons. Et c'est plus tard, c'est vers 21, 22, 23 ans, là, quand je jouais au hockey dans les ligues professionnelles aux États-Unis, que je me suis rendu compte que je suis pas un joueur de hockey. Je suis pas, sans rien enlever aux joueurs de hockey parce qu'il y en a sûrement quelques-uns intelligents. Ça, c'est une blague, là. S'il y a des joueurs de hockey qui m'écoutent, ils vont dire, hey, toi, mon espèce de mangeux de. Hein? Non, mais le hockey, c'est un autre monde. T'sais, c'est d'autres choses. Là. C'est une autre mentalité. Je veux pas avoir l'air du gars qui parle contre le hockey, là, mais my God, c'est un autre monde. Je veux dire, dans le hockey, là, misère. On pourrait faire une émission juste là-dessus. Là. Mais tu sais, c'est de la dictature. Un coach, c'est un dictateur. Il peut t'envoyer. Il peut te dire n'importe quoi, il peut te prendre, il peut te rentrer dans le mur.
S'il t'aime pas, il peut décider que tu joues pas.
Il joue pas. Les gars, entre eux autres, c'est une guerre. On pense que les gars sont tous dans la même équipe, mais il y a souvent des batailles dans le vestiaire, dans les pratiques. Les gars sont, tu sais, on est tous des coqs, on est tous des gars qui ont la testostérone dans le tapis. Fait que c'est
tu veux monter.
Puis tu veux monter, puis si le gars qui est avant toi dans ton équipe, tu peux prendre sa place, tu vas être bien. Tu sais, fait que c'est. Il y a des belles choses dans le hockey, il y a l'esprit de camaraderie, il y a le fait de se défoncer.
Comment que tout ça, ça existe dans l'industrie de la musique aussi?
Oui,
sauf
que je le ressens moins, puis je sens que les artistes, en général, ça me rejoint plus. J'étais un gars sensible, j'étais un gars qui aime partager ses émotions, puis je me retrouve plus comme artiste. Dans le hockey, c'est pas encouragé d'avoir une personnalité, c'est pas encouragé d'avoir quelque chose qui ressort de l'ordinaire. Moi, j'étais souvent mis de côté, les coachs, des fois, m'appréciaient moins parce que j'avais une personnalité assez extravertie. Je me souviens qu'à l'époque, quand j'ai eu 18 ans, je m'étais fait faire des mèches blondes dans les cheveux. Puis les coachs avaient « Ben voyons, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Veux-tu être un rockstar? Tu veux jouer au hockey? » À un moment donné, j'étais arrivé avec une boucle d'oreille, une petite boucle d'oreille. Hey, ça passait pas, ça, au conseil. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis même dans cette ambiance-là, je me sentais pas... c'était pas moi, je le savais pas à ce moment-là. J'étais pas que j'étais malheureux parce que j'aimais jouer au hockey, mais je le sentais qu'il y avait quelque chose qui marchait pas, que c'était pas moi que je le faisais. Puis quand j'ai découvert la musique, quand je suis rentré dans un bar pour la première fois, quand j'ai rentré dans une boîte à chansons vers 18-19 ans, que j'ai vu un chansonnier en avant chanter, puis de voir 200-300 personnes qui chantaient avec lui, qui embarquaient, ça a été une révélation. Ça a été mon premier vrai grand coup de foudre avec la scène, de voir un chansonnier, de voir toutes les filles qui étaient assises dans le bar puis qui le regardaient. J'étais comme, OK, moi, je veux faire ça. J'ai dit ça, là, ça marche. Non, je fais des blagues, mais c'est vrai. Je me disais, OK, tu peux gagner ta vie. Les gars, ils gagnent 200-250$ par soir. Ils sont en avant. Ils ont 300 personnes qui regardent, qui chantent avec eux. Il y a plein de filles dans la place. Écoute, j'ai dit, c'est wow, c'est magnifique. Puis tu sais, j'ai dit, je veux faire ça. Puis là, je me suis mis à pratiquer puis à pratiquer. Puis quand je retournais jouer au hockey aux États-Unis à 20, 21 ans, 22 ans, j'en rentrais dans ma chambre. J'avais mon cahier de partitions. Dans ce temps-là, on n'avait pas d'iPad avec toutes mes partitions des tunes. Puis là, je me disais, OK, un jour, quand je vais être chansonnier, parce que c'était comme ça que je allais commencer, je me disais, il va falloir que je fasse 3 heures de chansons. Donc, je m'installais dans ma chambre, je me disais, là, je fais mes 3 sets. puis que le téléphone sonne, que quelqu'un fasse n'importe quoi, qu'il y ait du bruit, je continue, j'arrête pas.
Comme dans un bar.
Si je me trompe, je continue. Fait que je faisais mon heure, je prenais mon break de 20 minutes, là, j'attendais un peu, je refaisais une deuxième heure, puis là, je prenais un autre break, puis je refaisais une troisième heure, puis je me disais, ben c'est comme ça que je vais être prêt. Quand je vais arriver dans le bar, je peux pas faire semblant. T'sais. Fait que j'ai travaillé fort comme ça, puis je te dirais que la passion pour la musique montait tout le temps, puis celle pour le hockey descendait. Puis plus les années avançaient, plus quand revenait le début de la saison de hockey en septembre, qu'il fallait que je prenne mon auto, tout mon stock, retourner jouer au hockey.
Plus c'était lourd,
plus les saisons me paraissaient longues, puis j'avais hâte de revenir au Québec. J'avais commencé à faire du remplacement, puis à chanter un petit peu dans les bars, dans les boîtes à chansons. J'appelais les boss de bar à distance. J'avais, peux-tu me réserver quelques fins de semaine cet été? Oui, il n'y a pas de problème. J'avais juste hâte que la saison finisse pour aller jouer de la musique. Fait qu'à un moment donné, un certain temps, je me suis dit, ben c'est quoi je veux faire dans la vie? Parce que je gagnais de la belle argent au hockey. J'étais pas dans la Ligue nationale, mais j'étais dans la Ligue en dessous, puis on gagnait dans ce temps-là du 50-55 000 Canadiens, US, qui valait quelque chose comme 70-75 US à 20, 21 ans, 22 ans. On s'entend-tu? J'avais l'impression que j'étais millionnaire, là.
Oui.
Je m'étais acheté une Mustang décapotable avec des bancs en cuir, j'avais payé cash. Écoute, moi, j'étais riche, là, dans ma tête, tu sais. Puis j'ai tout lâché ça pour dire non, je vais aller faire 125, 150, 200 piastres par soir d'un bar, je resterai dans un petit 1,5 à Québec. Mais le jour où j'ai décidé de lâcher ma carrière pour dire je vais devenir chanteur, j'ai jamais regretté, j'ai jamais regardé en arrière, puis j'ai jamais été aussi heureux. À tous les jours de ma vie, je dis je fais ce que j'aime, puis je suis né pour ça, et je peux le faire jusqu'à 80, tu sais.
Oui.
Genre, et c'est ce que je veux et que je vais faire, tu sais. Je regarde Aznavour, il est rendu quoi proche?
93, Aznavour. 92, 93.
Je pense qu'il fait encore des shows jusqu'à récemment.
Oui, oui.
Ferland a ralenti beaucoup, mais il en a fait jusqu'à 80.
Oui.
Patrick Normand, 70.
Vigneault fait de la scène parfois.
Vigneault en fait encore un petit peu. Moi, je m'imagine à 75 ans, un petit monsieur, les cheveux tout blancs, avec mon petit complet, m'asseoir au piano, puis chanter « T'es ma femme, t'es la plus belle », tu sais. Puis toutes ces belles chansons-là de mon répertoire qui vont prendre la valeur avec les années. Parce
ça
que
prendra tout un autre sens, c'est rendu.
Ben, oui, imagine, à 75 ans, quand je vais chanter ça, cette chanson-là, j'espère qu'à cet âge-là, je vais être marié, là, puis que je vais avoir une femme, puis que je la chanterai pas encore pour personne. Mais, tu sais, ça prend un auteur-compositeur, ton répertoire prend de la valeur avec l'âge. Tu sais, moi, je me dis, ces belles chansons-là, tu sais, je l'ai jamais dit à personne, mon premier numéro en radio que j'ai sorti en 2006. Je la chante dans mes shows, les gens la chantent au complet avec moi. C'est encore une chanson d'actualité, t'es encore belle aujourd'hui, les femmes que j'ai aimées. Là, j'en ai sorti des plus pop récemment. J'ai fait deux numéros un avec une chanson qui s'appelle T'es toute ma vie, que j'ai écrit avec Marc Dupré, qui est une chanson beaucoup plus pop, tu sais, qui a peut-être moins marqué les gens que, mettons, T'es ma femme, t'es la plus belle, mais qui a été numéro un pendant 7 semaines de suite au Québec. Il y a Marie-moi qui a joué beaucoup à la radio, qui a fait des numéros un peu partout, qui celle-là, je pense qu'elle va rester plus longtemps. Mais aujourd'hui, il faut enrober un petit peu plus ces chansons. Je dirais de pop. Il faut les mettre un petit peu plus pop. Il faut que ça soit plus up tempo, que ça soit plus vivant. On est dans une époque.
Mais ça, c'est si on veut jouer à la radio.
Si on veut jouer à la radio. Parce qu'on est dans une époque où les ballades, les chansons en texte, ça ne joue plus tellement. Il va en passer une de temps en temps. Là, tu sais, je veux dire, mettons, les deux frères qui viennent de sortir un album avec 6 numéros 1 de suite, puis qui viennent de vendre 100 000 copies, puis qui sont partout. Là, ça, c'est moi.
C'est toi qui chante?
Je pense pas.
Non.
Ah non, c'était pas moi, j'ai pensé que c'était moi. Tu sais, exemple, il arrive un phénomène comme ça, les deux frères, là, ils ont sorti 3-4 tonnes up-tempo. Là, eux, ils peuvent se permettre de sortir une belle balade qu'ils ont sorti, puis là, on va les jouer parce que c'est les artistes de l'heure du moment. Mais en général, des fois, je serais curieux, je ferais le test, je dirais aux gens, puis là, j'inclus pas la programmation de la radio, puis c'est pas une pierre que je lance à la radio, c'est un constat. Tu sais, je dirais, nommez-moi 5 grandes chansons qui vont traverser les époques, des chansons à texte, des chansons qui vous ont touché, en termes de balades, de belles chansons à texte dans les 5 dernières années. Puis je suis convaincu que vous y pensez, vous n'êtes pas capable de m'en nommer 5.
Non? On va s'aimer encore, en tout cas, de la bière.
Tout le monde, la première, quand je dis ça, les gens vont toujours dire, ben, puis même moi, la dernière, mettons que je vais me souvenir, qui a marqué beaucoup, c'est On va s'aimer encore, qui est sorti à peu près dans les mêmes temps que T'es ma femme, t'es la plus belle. Mm-hmm. Puis je vais dire, depuis On va s'aimer encore, tu sais, on dirait que, je sais pas, on n'est pas dans cette époque-là, puis moi, je persiste et je signe à écrire des chansons à texte, à écrire des chansons d'amour, des chansons qui vont toucher les gens, parce que je me dis, c'est ces chansons-là qui vont traverser les années. On parlait de Roger Tabra, quand j'ai commencé à travailler avec Roger au début de ma carrière, puis on parlait au début, puis avant d'écrire, j'ai dit, mais Roger, bon, ben Roger, qu'est-ce qu'on va écrire, tu sais, puis tout ça. Puis je me souviendrai toujours que Roger m'a dit, mais qu'est-ce qu'on va écrire? Des chansons d'amour! Ce ne sont que des chansons d'amour. Je me souviens que Roger me dit ça. Il me dit ce ne sont que des chansons d'amour. Les chansons qui vont traverser les époques et le temps, ce ne sont que des chansons d'amour. Si tu regardes les plus grandes chansons de l'histoire, de Edith Piaf, des Beatles, ou de mettons, si on parle dans le francophone, Aznavour, Piaf, Sardou, Jacques Brel, c'est quoi les grandes chansons? Ne me quitte pas.
La manique.
L'hymne à l'amour, la manique. Ce ne sont que des chansons d'amour. Là, aujourd'hui, on dirait les gens de promiscuité, les artistes, on dirait, veulent plus trop faire de chansons d'amour. On peur, peut-être que ça soit vu un petit peu moins. T'es comme si au Québec, en tout cas, je trouve qu'il y a ce phénomène-là, t'es moins pris au sérieux si tu fais des chansons d'amour. Si t'es dans une clique un petit peu plus intellectuelle, si tu fais de la musique un petit peu plus de gauche, un peu plus intellectuelle, on en a discuté sur Facebook.
Oui.
Là, on dirait que t'es plus pris au sérieux, comme si ta démarche artistique était plus sérieuse. Plus digne de mention quand t'es un peu plus tu t'écris des mots un peu plus vaporeux, des ambiances un peu plus tu comprends ce que je veux dire, tu sais? Mais moi, je veux continuer à prouver qu'on peut faire de la belle grande chanson d'amour et à texte et que ça va traverser les années puis que c'est aussi valable que n'importe quel autre chanson qui est vu un petit peu peut-être plus intellectuel ou de gauche, on peut dire.